19h15 à Kinshasa, place à Dialogue entre Congolais avec Alain Irung à la présentation.
Bonsoir, la province du Sud Kivu choisie comme province pilote dans la certification des substances minérales à l'est de la RDC. Selon le ministre des Mines, ce projet devra permettre la transparence et le contrôle dans le secteur minier. Comment analyser les efforts du gouvernement congolais dans l'assainissement du secteur minier et quels sont les moyens pour la mise en œuvre de ce projet? Nos invités dans cette émission sont professeur Dieudonné Ntamboué, coordonnateur adjoint en charge des questions techniques de la cellule technique de coordination et de planification minière. C'est un service spécialisé du ministère des Mines. Il est avec nous dans ce studio. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Willy Kalengai, journaliste et directeur général du magazine Géopolis, un magazine spécialisé dans le secteur des mines et hydrocarbures et bois. Il est également avec nous dans ce studio. Bonsoir, Willy Kalengai.
Bonsoir.
John Cagnoni, président du comité professionnel mine de la Fédération des entreprises du Congo Nord Kivu. Lui est en ligne. Bonsoir, John Cagnoni.
Bonsoir.
Vous êtes également très nombreux à réagir, vos chers auditeurs. Hubert de Bukavu Sud Kivu, l'idée est bonne, son application louable, mais il faut que les exploitants ouvrent des comptes en RDC. Il est mieux que la province orientale soit aussi concernée. Robert Kasunga de Lubumbashi au Katanga, est-ce que le gouvernement, par cette structure, a les moyens pour mener ce contrôle où il compte, comme toujours sur l'appui des partenaires extérieurs, qui souvent n'honorent pas leurs engagements? Cela serait confier le contrôle de ce secteur aux pilleurs. Vous l'avez compris, chers auditeurs, vous êtes le quatrième invité. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
La province du Sud Kivu a été choisie comme province pilote dans la conception et la mise en œuvre du projet sur la certification des substances minérales dans l'est de la RDC. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Mines du gouvernement central lors de son séjour à Bukavu. Martin Kabouiloulou s'est exprimé la semaine dernière à l'occasion de l'ouverture d'un atelier de deux jours sur la certification des substances minérales dans l'est du pays. Ce projet devra permettre la transparence et le contrôle dans le secteur minier. Ceci afin de donner une nouvelle crédibilité à l'activité minière congolaise sur le marché international. Le but étant que les minerais congolais ne soient plus considérés comme minerais du sang. On écoute Martin Kabouiloulou, ministre des Mines, au téléphone de Jocelyne Moussa Opondé du magazine Écho d'économie.
Nous certifions la chaîne et non le produit.
Qu'est-ce que cela veut dire concrètement?
Depuis, les sites miniers sur lesquels les produits miniers sont extraits seront identifiés. Ensuite, on va identifier le producteur, c'est-à-dire le creuseur ou l'exploitant artisanal. Il sera identifié avec l'identité et la photo. Après le puits, nous avons mis un centre de négoce. C'est là le lieu du marché de tous les produits miniers. Ensuite, le produit qui doit être retraité, la capacité, il va passer à l'entité de traitement et de là-bas, il sera exporté. Alors, la chaîne continue jusqu'à l'extérieur. Lorsqu'on exporte le produit, nous devons savoir chez qui le produit arrive. Le rapport des Nations Unies et toutes les ONG ne voulaient que ça. Ils cherchaient à ce que nous puissions certifier justement cette chaîne. Connaître qui fait quoi dans cette chaîne. Parce qu'il y avait des produits, au lieu d'être destinés à l'exportation normale, étaient destinés à la vente des armes.
Professeur Dieudonné Ntamboué, pourquoi la province du Sud Kivu? Il y a également deux auditeurs qui posent cette question, c'est Clovis Bilembe de Mbandaka à l'Équateur. Pourquoi choisir seulement Bukavu comme le Sud Kivu comme province pilote pour cette opération? Or, il y a d'autres villes en RDC qui peuvent servir le gouvernement pour effectuer cette opération. Robert Baomé de Bukavu Sud Kivu, pourquoi faire de cette province du Sud Kivu une province pilote dans la certification des substances minérales alors qu'elle ne regorge pas d'assez de minerais par rapport, par exemple, au Tanga. Aussi, j'aimerais savoir quelle particularité a le Sud Kivu dans ce secteur de l'économie nationale.
Merci beaucoup pour cette question. D'entrée de jeu, je voudrais rectifier quand même quelque chose. En réalité, il y a deux provinces qui ont été choisies pour ériger des centres de négoce pilotes. Donc, c'est le concept de centre de négoce pilote plutôt que de province pilote. Mais c'est vrai, on peut l'étendre aisément. Maintenant, est-ce pourquoi le Sud Kivu ou pourquoi le Nord Kivu, parce qu'en réalité la question devrait être celle-là, c'est parce que ces deux provinces, entre autres, il faut aussi y inclure le Maniema, il faut y inclure la partie est de la province orientale et la partie nord du Katanga. Pourquoi cet espace-là? Cet espace, parce que, vous le savez bien, il y a toute une série d'activités qui se déroulent là-bas et qui étaient pendant longtemps hors contrôle de l'État. Il y a là-bas toute une série d'activités extractives qui se sont souvent faites au bénéfice unique des groupements armés, hein, parfois non contrôlés. Et donc, il s'agissait en priorité de mener l'action sur le Nord Kivu et le Sud Kivu, en même temps que les autres, mais les centres de négoce pilotes, nous avons choisi de les implanter au Nord Kivu et au Sud Kivu.
Alors, vous parlez de l'action des groupes, des bandes armées dans cette partie du pays. Ce projet pourra-t-il réussir quand on se souvient, par exemple, des mines comme à Bissier, au Nord Kivu, où c'est infesté pratiquement d'hommes en armes. Est-ce que ce sera facile?
Dire que ce sera facile, rien n'est facile dans la vie. Mais rien n'empêche un État souverain de s'engager seul et au besoin avec des partenaires traditionnels, comme c'est le cas ici avec le BGR, c'est-à-dire la coopération allemande. Rien ne nous interdit en réalité d'embrasser cette initiative. En fait, il y a le choix entre ne rien faire et laisser les choses perdurer, et le choix qui consiste à dire, voilà, nous commençons ici, et le début, c'est le concept du centre de négoce qui, si vous le voulez, se situe au jour d'aujourd'hui. Si on veut reprendre la chaîne, en fait, il y a le puits, la mine ou le gisement ou le gîte tout simplement, et il y a le comptoir qui se trouve au milieu. Le négociant achète le produit à l'artisanal qui est au puits, l'amène au comptoir et à partir du comptoir, se fait l'opération d'exportation. Et nous arrivons ainsi à l'utilisateur final, qui est généralement une grande entreprise située soit en Occident, soit dans l'Extrême-Orient, qui a la capacité technologique, n'est-ce pas, de transformer et de revendre ou d'utiliser soi-même, n'est-ce pas, le tungstène, le tantal ou le niobium à des fins de haute technologie.
Alors, y a-t-il des produits qui sont particulièrement visés ou c'est tous les produits, toutes les substances minérales ou tous les produits miniers, disons?
Dans les termes de référence, on a dit, c'est un concept assez grand, on a parlé des substances minérales autres que le diamant. Mais il va de soi que la priorité va, parce que ces questions concernent le plus souvent un secteur qui n'est pas formellement organisé, on va le dire, hein, le secteur artisanal. Et le secteur artisanal de la République démocratique du Congo, à l'Est, c'est essentiellement les stanifères et accompagnateurs, c'est-à-dire la cassitérite, la wolframite, les colombos tantalifères ou niobio-tantalifères. Ça veut dire essentiellement quatre éléments, quatre métaux. C'est l'étain, c'est le tantal, c'est le niobium ou colombium chez les Américains, et c'est le tungstène.
John Cagnoni, vous êtes président du comité professionnel mine de la Fédération des entreprises du Congo Nord Kivu. Comment vous avez accueilli le lancement de ce projet dans la partie est du pays?
Merci beaucoup. Nous l'avons naturellement accueilli positivement pour plusieurs raisons. Et la Fédération d'entreprises du Congo, à travers son comité professionnel mine au Nord Kivu, a décidé de voir un peu dans quelle mesure et de faire impérativement accompagner toutes les bonnes initiatives qui émanent de notre gouvernement et des partenaires extérieurs. Donc l'initiative de Bézère a été accueillie très positivement.
Allez-y, je vous en prie.
Et je voudrais vous dire qu'il n'y a pas que cette initiative-là, il y a beaucoup d'autres initiatives. Je ne sais pas si on a l'opportunité peut-être d'essayer un peu de les relever. Il y a l'initiative naturellement du Bureau de géosciences des ressources naturelles, qui est un projet de la République fédérale d'Allemagne, qui est un projet qui est très 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 important pour nous. qui parle, comme le ministre l'a dit au début de l'émission, de la certification de toute la chaîne logistique, mais il y a d'autres initiatives aussi. Il y a l'initiative en soi de l'industrie de l'État qui s'appelle ITRI. ITRI, en fait, regroupe pratiquement tous les acteurs au niveau national et au niveau international du marché. Qu'est-ce qu'on entend par acteur? Nous pouvons parler au niveau du Congo, des comptoirs, des entités de traitement, les traders au niveau de l'Europe et des États-Unis, et même les fonderies, jusqu'à pratiquement à ce qu'on appelle en anglais les end users, les consommateurs finaux. Donc, ça, c'est une initiative qui est déjà mise en place. Nous avons fini sa première phase. Nous allons commencer très bientôt au mois d'avril la deuxième phase, tout en termes de ce qu'on appelle une phase de pratiquement de papier. Donc voilà, il y a une initiative aussi promise, qui est une initiative de la Banque mondiale, qui en avance aussi, et qui parle d'un volet de renforcement de capacité des services intervenants. On peut citer les services comme les CSK, l'administration des mines, les CEP et autres. Il y a une initiative des centres de négoce, le professeur Ntamboué en a parlé tout de suite là, où nous allons travailler étroitement avec la MONUC, la mission des Nations Unies au Congo, pour effectivement identifier des centres par lesquels vont transiter pratiquement toute la marchandise. Il y a l'initiative de ce qu'on appelle la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, les CIRGEN, qui prend aussi l'aspect qu'on appelle certification régionale. Donc voilà autant d'initiatives qui sont pratiquement mises en place et qui sont pilotées par notre ministère des tutelles, le ministère des mines, qu'il faut accompagner et renforcer.
Alors, à part l'avantage, hein, certes, comme l'a relevé le ministre, de suivre la traçabilité de produits depuis le puits jusqu'à la vente, quels pourraient être les autres avantages dont vous négociant, que vous négociant, pouvez tirer de ce projet?
Écoutez, comme vous le savez, le pays est pratiquement depuis quelques années permis en disant que les minéraux de l'Est de la République démocratique du Congo contribuent à renforcer la situation de l'insécurité que nous vivons à l'Est et de ce fait financent directement ou indirectement les groupes armés. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention toutes les publications ou les rapports de l'ONG comme Global Witness. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention, j'imagine, les rapports du panel des groupes des Nations Unies sur cet aspect-là. Et ça nous pose problème. Quel problème que nous traversons actuellement? Vous le savez qu'il y a pratiquement de très grands groupes, de grandes fonderies qui ont décidé d'interrompre ou de ne plus travailler avec la RDC du fait de cette campagne. Aujourd'hui, nous exportons à peine 40% des exportations que nous faisions l'année passée et l'année de l'avant. Donc, c'est un manque à gagner considérable pour les opérateurs économiques que nous sommes, et ça a un impact négatif sur, de manière générale, sur toutes les provinces orientales de notre pays. Vous le savez, rien que la province du Nord-Kivu, effectivement, c'est le marché par an plus de 25 millions de dollars. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous payons en termes de taxes plus d'un million de dollars. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, finalement, qui perd? Nous perdons, en tant qu'opérateur économique, toutes les autres activités connexes qui dépendent essentiellement de nos activités en paye les prix aussi, et naturellement, à notre gouvernement en termes de mobilisation des recettes. Alors, c'est finalement une situation qui pose problème non seulement au secteur privé, aux partenaires que nous avons, qui dépendent essentiellement de nos activités, et finalement notre gouvernement aussi.
Voilà, Willy Kalinga, vous êtes analyste économique. Le choix de l'Est du pays pour lancer ce projet est-il une question géostratégique?
Je pense oui, hein. Je pense que le gouvernement avait intérêt à commencer quelque chose à l'Est du pays. Mais là où je suis un tout petit peu gêné par cette initiative, c'est que tout à l'heure le ministre a parlé de la certification de la chaîne et non de la certification du produit. Cette notion est assez ambiguë. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous voulez certifier toute la chaîne de production, il existe des services du ministère dont le travail est de s'occuper de toutes ces étapes. D'abord, commençons par la première étape, celle du carré minier. Il y a quand même le camion qui existe qui sait qui a obtenu un permis de recherche ou d'exploitation. Si c'est la petite mine, vous avez les SCAM qui existent. Si c'est pour l'exportation, vous avez les CEC qui existent. Donc il existe déjà des services du ministère des Mines dont le travail est d'avoir un regard suffisamment professionnel sur l'ensemble du processus. Mais le problème qui se pose, c'était le problème du produit lui-même. Du produit qui sortait du pays et qui était supposé être un produit du sang. Alors je ne sais pas comment on va faire la certification de toute la chaîne, mais je me dis qu'il faut qu'on se pose le vrai problème.
quel est le vrai problème qui n'est pas dit? Le vrai problème, à mon sens, à mon humble avis, c'est la, ce qui n'a pas encore été fait, ce qui n'est pas dit, c'est la démilitarisation des zones minières. C'est ça la vraie question qui se pose à l'est du pays. Nous avons connu toutes les opérations de pacification à l'est du pays. C'était pourquoi? Pour amener la paix, c'est vrai, mais aussi pour démilitariser les zones minières où les hommes en armes, non seulement font le travail de mine, mais ont pris presque en otage l'ensemble du processus de production. Ça, c'est une chose que je n'ai pas senti. Je suppose que c'est par pudeur qu'on ne le dit pas. Si vous lisez aujourd'hui le rapport de Global Witness que M. John Cagnoni, que je salue au passage, a tout à l'heure évoqué, qu'est-ce qui a été dit dans le rapport? Le rapport dit effectivement qu'il y avait les stellaires qui occupaient une très grande partie des zones minières. Après les opérations Kimia 1, Kimia 2 et certaines opérations, ces espaces minières sont occupés par les CNDP. On a habillé Saint-Paul pour, on a déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. La question de l'exploitation des minéraux par des forces militaires, donc le financement de ces mêmes sources d'insécurité par les minéraux, cette question reste pendante. Et je ne sais pas comment la certification en elle-même, telle qu'elle est supposée, assez romantique, peut aller au fond de la question. Voilà un peu ma première inquiétude dans ce débat.
Professeur Dieudonné Tamboué, directement, comment vous réagissez à l'observation de Willy Carinet?
Oui, tout en respectant l'opinion de notre ami Willy Carinet, je voudrais dire deux choses. Premièrement, il y a deux manières d'aborder la certification. C'est vrai, le ministre l'a clairement dit. Il y a le plus simple à faire, parce qu'il faut parer au plus pressé, c'est de certifier la chaîne, n'est-ce pas, du produit, depuis la mine jusqu'au consommateur final. Je vais y revenir, mais probablement que ce que notre ami voulait dire, il aurait peut-être préféré que ce soit une certification de substance. Donc, la certification de la matière. Et ça fait partie aussi du programme, mais c'est l'étape finale, c'est la deuxième étape. En fait, il s'agit d'essayer de reconnaître de manière univoque l'empreinte digitale d'une minéralisation. Et ce n'est pas une affaire simple. Nous y travaillons, hein. Je sais que, en l'occurrence, on a réussi dans le cadre du processus de certification de Kimberley pour le diamant. Parce que on peut reconnaître, de par la paragenèse, c'est-à-dire de par l'origine d'une minéralisation, on peut reconnaître des éléments qui permettent de dire ce diamant-ci est un diamant qui vient du Congo. Celui-là est un diamant qui vient du Zimbabwe, celui-ci est un diamant qui vient de la Russie. Donc, c'est une tâche extrêmement longue, et n'est pas facile. Elle est assez rebutante. Dans le cas d'un pays comme celui-ci, qui est post-conflit, et dans lequel la priorité est de faire repartir l'activité, c'est-à-dire redonner en fait des moyens de subsistance aux populations et donner des moyens à l'État pour mener des actions de développement, il va de soi qu'il fallait aborder le problème par le côté le plus simple. Ça ne veut pas dire que l'on a négligé la certification des substances. En passant, j'aimerais dire qu'il est rationnellement plus facile d'envisager la certification des minerais, n'est-ce pas, que la certification d'un métal. Mais il est évident que l'or, dès que vous l'avez produit, c'est de l'or. Il est évident que l'étain, une fois produit, c'est de l'étain. Mais par contre, la cassitérite de Bissillé ou la cassitérite du Nord Katanga peuvent avoir quelques petites différences, et ça, c'est de par simplement leur paragenèse.
Mais professeur, il a souligné un élément très important, et ça figurait même parmi les premières questions que je vous ai posées, la démilitarisation de l'Est. Je me rappelle qu'au mois de juillet, le Premier ministre a lancé le plan d'action pour la réhabilitation du secteur minier de l'Est, et j'ai même noté quelques points dans son discours. Je cite, le ministre de l'Intérieur, de la Défense et des Finances veillera à ce que les hommes en uniforme et autres agents de sécurité ne s'ingèrent plus dans la gestion de l'exploitation minière. Les bandes armées cessent d'inquiéter les exploitants artisanaux dans les sites d'exploitation. Qu'est-ce qui a été fait à ce niveau-là?
il y a une très grande évolution. Hein, c'est-à-dire à tous ceux qui voient ce problème d'une manière, on va dire, ingénue, il faut rappeler la situation dans laquelle nous venons. Hein. Il y a 6-7 mois simplement que l'on a démarré ce processus, n'est-ce pas, qui consiste à faire redémarrer l'activité économique dans l'est du pays. Donc avant cela, c'était une situation extrêmement difficile à gérer. Aujourd'hui, et ben, j'en profite parce que ça me permet de rebondir sur ce que disait notre ami John Cagnoni, à savoir qu'il y a plusieurs initiatives. Il faut savoir qu'il est bien question de réaliser la cartographie d'abord des zones qui sont effectivement sous contrôle, n'est-ce pas, des forces de la République, et il y a encore quelques petites poches qui sont malheureusement, mais c'est ainsi, on ne sort pas de la guerre pour entrer dans une paix à 100%. Donc c'est un effort dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Alors au niveau de la coopération avec la task force internationale, cet effort-là est mené. Au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 90% des zones qui sont véritablement sous contrôle. Mais la difficulté est laquelle ? La difficulté est que tant que ces zones seront encore opérationnelles, il est difficile en fait de dire à nos forces qui sont positionnées, qui sont sur le champ, de leur dire, messieurs, veuillez évacuer pour que l'artisan puisse faire son travail. Donc il y a un timing, c'est une procédure, elle est en train de suivre son chemin, mais ne vous en faites pas, au niveau de la task force internationale, nous avons un monitoring qui s'est mis en place et qui est en train de faire en sorte que, petit à petit, n'est-ce pas, on assainit ces zones, et c'est là voilà. La place de cette certification de la chaîne.
Voilà. John Cagnoni, vous êtes au Nord Kivu. Comment vous vivez ce processus de démilitarisation de l'Est, comme l'a indiqué le professeur Dieudonné Ntamboué?
Bon, j'aimerais d'abord préciser une chose, remettre les débats dans son temps réel, en tenant compte de réalité qui a fait le terrain. Quels sont les acteurs qui affilent le terrain Nord Kivu, au Sud Kivu, dans la partie nord du Katanga, ou même dans une certaine aussi la province orientale? Nous avons ce que nous appelons les traders artisanaux qui travaillent sur les sites. Nous avons les négociants qui sont les intermédiaires entre les traders artisanaux et les comptoirs. Et nous avons aussi les traders qui sont au niveau de l'extérieur et les fonderies. Les problèmes se posent à quel niveau aujourd'hui? Et si on doit tenir compte de pratiquement les éléments de traçabilité et de transparence, les problèmes ne se posent pas à partir des centres de négociation, c'est-à-dire à partir des négociations jusqu'au comptoir, jusqu'au consommateur final, jusqu'au même au consommateur, il y a une certaine lisibilité. Les problèmes se posent au niveau des sites, des puits entre les puits, et pratiquement les centres de négoce. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démilitariser. Nous avons même fait des propositions, effectivement, à notre ministère de tutelle, et qui nous soutient dans cette démarche-là. Nous pensons aujourd'hui que les militaires doivent impérativement quitter, comme on dit, les sites d'extraction en soi, et on doit aussi éviter à ce que les militaires puissent ériger des barrières, si pratiquement sa chaîne logistique, telle que le professeur Ntamboué l'a dit aujourd'hui. Mais j'aimerais donner une grande précision. La situation telle qu'elle se présentait il y a 2 ou 3 ans et telle qu'elle est aujourd'hui, il y a une grande, grande évolution. Vous le savez très bien, il y avait une présence des FDLR à Walikale il y a quelques jours, et les choses ont évolué positivement à travers les opérations Umoja Wetu, Kinya 1 et Kinya 2. Et aujourd'hui, la situation s'est sensiblement améliorée. Global Witness, je voudrais donner juste une petite précision à M. Kalengai. Nous travaillons étroitement avec ces gens-là. Mais je peux vous confirmer que ces gens-là ne s'arrêtent qu'à Goma et à Bukavu. Ils ne vont pas faire des recherches sur le terrain pour savoir ce qui se passe quoi. Voilà même pourquoi que nous sommes même en train de nous poser des questions si nous devons effectivement continuer même à échanger et à discuter avec des ONG qui ne tiennent pas compte des réalités positives qui affectent le terrain. Je pense effectivement qu'il faut démilitariser. Quelle est l'option? L'option secondaire à la démilitarisation. Il faut penser à une police qui viendrait peut-être prendre position de cette zone-là. Mais il ne faut pas oublier une chose. Nous sommes dans une zone où, dans la périphérie, il y a encore des forces négatives comme les FDLR. Il ne faut pas non plus que l'armée quitte totalement ces zones-là. L'armée peut être tout autour de ces zones et la police pourra peut-être voir un peu dans quelle mesure elle peut travailler avec d'autres services intervenants, que ce soit les SICAM ou même l'administration des mines. Donc, nous soutenons cette démarche du gouvernement et nous pensons qu'il y en aurait d'aller de l'avant.
Don Cagnoni, il y a deux autres auditeurs, Simon de Liège en Belgique, qui dit que ce processus de certification n'aura de sens que si un combat réel est mené contre la corruption en RDC. Ce qui importe pour le moment, c'est d'intensifier la lutte contre la corruption de façon concertée, car il est inconcevable qu'un expatrié arrive au Congo comme touriste et on le retrouve quelques jours plus tard avec une quantité énorme de diamants à la porte de sortie du pays. Il y a Albert Mouya de la Suède. Depuis que ces projets existent, il n'y a rien de positif dans la vie de la population. Je pense que ce projet légitime la sortie de nos richesses. Dans le futur, nos enfants souffriront du manque des richesses minières.
Bon, j'aimerais juste donner une précision par rapport à ce que les auditeurs viennent de dire, si vous me le permettez.
Je vous en prie. Je
veux d'abord vous rassurer qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure là, il y a une évolution positive. Et nous inscrivons dans la logique de ce qu'on appelle l'ITIER, en fait, qui est l'industrie, des industries extractives, et voir un peu dans quelle mesure nous devons commencer effectivement à publier tout ce que nous payons, quitte à ce que le gouvernement nous dise aussi quelle est l'affectation de ce que nous payons. Et ça pourra nous permettre de montrer effectivement quel est l'apport réel de notre secteur dans la maximisation de recettes. Et je peux vous dire qu'on a essayé un peu d'atteindre de ce côté-là à l'est de la RDC.
Willy Kalingaï est toujours rassuré hein, en ce qui concerne la démilitarisation.
Non, je crois qu'il faudra qu'on fasse beaucoup d'efforts pour pouvoir régler les problèmes de fond. Aujourd'hui, je crois que tout en l'honneur du gouvernement de s'attaquer à certaines conséquences, dont la certification, comme le professeur Tambo a dit tout à l'heure, de la chaîne, la sécurisation de la chaîne. Mais je rebondis rapidement d'abord sur ce que tout à l'heure John Cagnoni a dit en parlant du Global Witness. Je crois que ce serait quand même pas très gentil de le dire en disant qu'il s'arrête qu'à Goma. Moi, j'ai lu tout le rapport de cette ONG et je pourrais aussi citer un autre rapport qui est sorti aujourd'hui, pas Global Witness, mais par un autre groupe qu'on appelle le groupe de recherche sur la paix et la sécurité en RDC. Ce groupe-là a fait un rapport qu'on peut trouver d'ailleurs très facilement où ils ont trouvé un lien entre les ressources naturelles et les transferts des armes. Il ne faudrait donc pas oublier qu'il existe effectivement aujourd'hui à l'est du pays tout un réseau mafieux qui, d'une manière ou d'une autre, ne permettra pas, sans que l'on puisse régler les vrais problèmes, à ce que le trafic de matières précieuses illégales puisse continuer. Le vrai problème pour moi, c'est lequel ? Nous parlons des mines, nous parlons de l'économie, nous ne parlons pas de la guerre. Nous parlons du commerce, nous parlons des activités économiques. Et pourquoi est-ce que les minerais que nous avons ne sont pas les premiers consommateurs ? Pourquoi les minerais ne sont pas valorisés dans notre pays ? Pourquoi est-ce que à côté du site d'extraction, il n'y a pas l'usine ? Ceux qui connaissent le pays savent. Vous allez à l'Okimo, à la Miba, à la Gécamine, là où on extrait les minerais, là où se trouve l'usine de traitement. Entre les deux, il n'y a pas une longue distance. Pourquoi ? Parce que les transports de minerais bruts coûtent très 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 cher. Mais pourquoi à l'Est ce n'est pas possible ? Parce que justement le climat des affaires, la plupart des gens qui peuvent mettre des fonderies, comme l'a dit John Cagnoni, ne veulent pas mettre des usines dans notre pays. Parce qu'ils se disent, pour mettre des usines dans ce pays-là, c'est incertain, les lois ne sont pas respectées, la sécurité juridique est là, vous ne pouvez donc rien faire à tout prendre, mettons l'usine dans un pays voisin, très proche, et nous prenons que la matière première, mettons-la de notre côté. Le fond du problème, c'est de sécuriser le circuit économique de production. Là où il y a les minerais, doit se trouver l'usine. Mais là où il y a l'usine, doit se trouver la sécurité juridique et la paix.
Mais il y a quand même un certain nombre de lois hein, qui ont été promulguées pour assainir le climat des affaires, Willy Kalingaï.
Mais regardez, nous en sommes à quel niveau ? Je ne suis pas pessimiste, mais je voudrais que, pour une fois, nous puissions régler les problèmes de fond. Les problèmes de fond sont ceux-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous lisez les derniers rapports sur le climat des affaires dans notre pays, il y a eu des lois qui ont été promulguées, mais nous n'avons pas respecté ces lois. Nous sommes aujourd'hui en arbitrage avec un international. Ça, on ne peut pas le cacher. Certaines entreprises qui ont commencé à gauche se plaignent à droite. D'autres veulent venir, ont peur de l'insécurité. Et tant que nous n'avons pas sécurisé les investisseurs, tant que nous n'avons pas réduit les distances entre les sites d'exploitation et les sites de traitement, La Sécamine a fait quand même 80 ans de production de cuivre. C'est parce que là où il y avait la mine, il y avait l'usine. Et là où il y avait l'usine métallurgique, on pouvait exporter. Mais à l'est, demandez à M. John Canon, pourquoi les fonderies ne sont pas à Goma, à Bukavu? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une usine pour transformer tous ces biens-là? Parce que les opérateurs sont frileux. Ils savent que vous pouvez négocier aujourd'hui une chose, demain, les lois peuvent changer.
Il y a Wabelo de Matadioba Congo qui dit « Je ne crois pas à la réussite de ce projet, car bien souvent on lance des projets sans assurer leur pérennité et leur survie, et c'est toujours la population qui en est victime. C'est suite à la mauvaise réalisation de celle-ci. » Augustin Mwango de Kindu au Maniema, « Toutes les initiatives qu'entreprend le gouvernement congolais pour assainir les différents secteurs sont à louer, mais que ce ne soit pas une distraction à un an des élections, car nous attendons la concrétisation de toutes les initiatives prises à Willy Kalimbay. »
C'est vrai qu'il faudra qu'on fasse quelque chose. Et malheureusement, à force de vouloir singulariser les pratiques à l'est du pays, on finit par oublier que le secteur minier est régi par un code. Et ce n'est pas le professeur Tambo qui va me contredire qu'il y a un code minier. Et que les opérateurs, qu'ils soient de l'est, de l'ouest, du nord ou du sud, doivent d'abord respecter le code minier. Et qu'est-ce que le code minier dit? Le code minier est clair dans certaines pratiques. Et j'ai l'impression que, à vouloir toujours pour trouver une solution adaptée à un contexte d'insécurité, on finit par ne plus faire de l'économie. Ce que l'on fait, on fait de la politique. C'est différent de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut garder quelques militaires autour des mines parce que c'est une période d'insécurité et que certains bandits peuvent venir surgir. Ça ne sera pas de l'économie. C'est autre chose. Il faut que le pays soit sécurisé entièrement. Et si il faut pour qu'on extrait un minerai dans le sol, il faut une armée, alors nous n'avons pas du tout la paix.
Professeur Dieudonné Ntamboué, à Gabriel Nawej de Fungurume au Katanga qui dit « Quelles sont ces mesures de sécurité que le gouvernement mettra sur pied pour sécuriser non seulement les exploitants mais aussi les produits de l'exploitation ?»
C'est une très bonne question. J'allais rebondir d'abord sur ce que Willy a dit, mais bon, je vais peut-être commencer par celle de l'auditeur de Fungurume. Alors les mesures qui sont là, bon, nous avons bien entendu l'accompagnement de la MONUC, n'est-ce pas, au niveau... La MONUC et l'armée nationale, au niveau de ces zones qui sont, il faut le redire, qui sont encore le plus souvent des zones opérationnelles. Raison pour laquelle, je le répète encore, il faudra attendre un certain temps pour qu'elles soient remplacées, n'est-ce pas, ces forces, par une police à vocation minière. C'est aussi dans le programme, hein, parce que finalement, nous ne parlons pas beaucoup du contenu de cet ambitieux programme de certification. Donc, c'est aussi un élément. Alors, le centre de négoce, qui est, parce que tout le monde s'accorde à dire que, en réalité, le problème, c'est à partir du puits jusqu'au comptoir. C'est à ce niveau-là que se pose le problème. Les négociants sont-ils identifiés, ne sont-ils pas identifiés? Un effort est fait par rapport à cela. Mais ce que nous disons, c'est que nous allons avoir, le parapluie, n'est-ce pas, de la MONUC, n'est-ce pas, en soutien à nos forces, en attendant que la police des mines vienne s'implanter. Au niveau du centre de négoce, ce sera un centre qui sera parfaitement sécurisé, où nous aurons tous les services intervenants, c'est-à-dire l'administration des mines, nous aurons le CEC pour le contrôle et la certification, et nous aurons évidemment le CSCAM qui est déjà au niveau du puits, n'est-ce pas, pour encadrer le creuseur, pour lui montrer comment respecter les règles de l'art pour faire de l'extraction et en même temps minimiser les accidents. Donc tout cet accompagnement viendra jusqu'au niveau du centre de négoce, qui abritera aussi des institutions bancaires. En fait, des banques seront aussi présentes là, pour éviter qu'on assiste à un autre élément de fraude immense que les gens, très souvent, ne soupçonnent même pas. C'est le troc. Il y a beaucoup de gens qui viennent sous couvert de procéder au troc. En réalité, ils viennent, ils laissent quelques habits qui ont été, récupérer quelque part dans l'Extrême-Orient, qui les amène, qui échange le sel et tout. Et c'est tout cela qui échappe véritablement au circuit économique. Alors, l'implantation des banques, l'implantation des centres de communication, en fait, hein, il faudra éviter que ceux qui arrivent là viennent, on va dire, avec de l'argent ou viennent avec des substances minérales, qu'ils arrivent, qu'ils se fassent payer et que 100 mètres plus loin, ils se fassent coincer dans la forêt par des hommes en armes. Mais donc, nous rentrons dans un système de bancarisation.
Mais professeur, quelles sont les garanties hein, qu'il n'y aura pas une surtaxation à outrance, hein, une multiplicité de services, comme on le déplore le plus souvent ici au pays?
Bon, j'aimerais assurer, hein, je crois que Willy Kalinda a parlé du code minier. Ce code-là, c'est vrai, on a eu parfois à se plaindre qu'il n'est pas toujours totalement appliqué. Mais dans le cas qui nous concerne, les intervenants sont bien connus. Il est vrai qu'entre le moment où a été promulguée cette loi 007/2002, n'est-ce pas, portant code minier, et aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu toute une évolution politique, n'est-ce pas? Il y a maintenant des gouverneurs, il y a une décentralisation de fait, avec un pouvoir reconnu au gouverneur, il y a des gouvernements provinciaux. Donc, ces institutions-là ont été intégrées, elles sont déjà prises en compte dans la configuration du circuit de la certification. Donc, et c'est pour cela que Son Excellence Monsieur le Ministre des Mines s'est déplacé personnellement à Bukavu pour faire un rendu de ces choses, afin que les acteurs soient clairement identifiés et ceux qui sont clairement identifiés soient impliqués. Dans la réalisation des opérations.
John Cagnoni, il y a César Ndaora de Bouya en province orientale qui dit « Il est impérieux d'assainir le secteur minier congolais et veiller à l'application stricte du code minier en y révisant certaines clauses sombres afin de le vulgariser. » Philippe Masika de Kolwezi au Katanga, il était vraiment temps que le gouvernement puisse envisager des mesures d'assainissement dans le secteur minier parce que ce secteur est longtemps demeuré à problème en RDC car il a financé beaucoup des guerres dans notre pays et on se demande si le gouvernement parviendra vraiment à concrétiser ce projet.
J'aimerais juste réagir et dire effectivement qu'il est très important d'assainir le secteur et j'aimerais rassurer mon ami Willy Kalinga et lui dire que tout ce qui se passe ici, toutes les initiatives qui sont prises, c'est fort dans l'esprit et la lettre du code minier comme l'a dit le professeur Ntamboué. Mais j'aimerais préciser une chose aussi. Avec les ministres, nous avons une ambition de faire de notre partie orientale le troisième pôle économique minier du pays. Après, naturellement, la province du Katanga et la province du Kasaï. Tout le monde est unanime aujourd'hui qu'il y a un potentiel énorme ici. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes encore aujourd'hui dans une phase qui est considérée comme une phase artisanale. Nous avons l'ambition de passer de cette phase artisanale vers une phase semi-industrielle et demain, industrielle carrément. Et à ce moment-là, on pourrait effectivement envisager qu'on puisse créer en place ici, mettre en place des fonderies et exporter des produits semi-finis. Nous pouvons le faire. Mais il faudrait quand même que Willy Kalinga se rappelle un peu d'où est-ce que nous venons. Il n'y a pas très longtemps, l'administration de l'État n'était pas étendue sur toute cette partie ici. L'État est en train d'y arriver avec des résultats positifs. Il faut prendre le temps. La sécurité, il n'y en avait pas. Elle est en train de s'améliorer au quotidien. C'est une très bonne chose. Et effectivement, comme il le disait, l'investissement a peur dans l'environnement qui n'est pas certain. Il y a quand même des avancées notables dans la partie orientale et nous espérons qu'on peut aller de l'avant dans les jours qui viennent. On a encore naturellement des problèmes comme des problèmes d'infrastructure, des problèmes d'énergie. Il faut y pallier et nous avons des discussions très avancées avec notre ministère de tutelle et nous espérons que dans les années qui viennent, on peut arriver à des résultats positifs.
Il y a un autre auditeur, Moussa Diouf, qui dit implanter les entreprises minières au Kivu, c'est bien, mais instaurer la paix, c'est mieux. Est-ce que cela ne va pas bénéficier à une seule catégorie des gens?
Vous savez, je peux vous dire, j'ai dit tout à l'heure là que notre secteur était en train de jeter pratiquement par mois, je parle uniquement du Nord Kivu, plus de 25 millions de dollars au niveau de la province. Vous pouvez bien comprendre que ces 25 millions de dollars ne s'arrêtaient pas uniquement à Goma. Ces 25 millions de dollars, aller à Walikale, aller dans la province du Maniema, aller dans la province du Sud-Kivu, aller même jusqu'à Manono, Malembasu, le Congo, dans le Nord Katanga. Finalement, il y a un effet d'entraînement et qui a un effet positif général sur toute la partie orientale du pays. Dire effectivement que ça va profiter à certaines personnes, je ne pense pas. Parce qu'on va créer de l'emploi, l'État va maximiser des recettes et ça sera une situation, comme on dit, un win-win.
Willy Kalingaï, quel pourrait être l'apport de la communauté internationale dans la réussite de ce projet?
En tout cas, pas celui qui se semble devoir pour le moment. Pour le moment, la communauté accompagne effectivement le ministère en appuyant, Mais la grande question que la communauté doit résoudre, c'est la question des entreprises qui sont d'ailleurs citées, qui sont en Europe, en Occident, qui sont en Asie, et qui sont effectivement les entreprises qui, par le fait qu'elles achètent ce produit qui vient de la guerre, entretiennent effectivement les zones de conflit. Aujourd'hui, on peut parler de certification, mais tant que les entreprises, comme on les a citées, AMC, MCDF, Taïsarco, toutes ces entreprises qui sont connues, identifiées, qui sont dans les rapports des Nations, des Espoirs des Nations Unies, qui sont dans les rapports de Global Business, les entreprises viennent et achètent ces produits qui sont des produits de sang. Le comité international devrait d'abord, avant tout, faire les toilettages dans ses propres économies. Il faut condamner ces entreprises. Il faut les indexer. Parce que de toutes les façons, ce n'est pas en disant voilà, que les Congolais doivent faire de l'ordre chez eux, qu'ils doivent assainir les milieux, ça ne suffit pas. Parce que s'il y a des gens qui veulent encore acheter ces produits qui viennent de la guerre, et ces entreprises sont connues, certaines sont cotées en bourse, et leur gouvernement ne font absolument rien contre les entreprises. Rien.
Albert Mouyailunga en Suède dit « En général, les débats et entrées à des ressources de notre sous-sol ne devront pas être exposés à notre peuple du fait que ces ressources minières n'ont jamais fait la joie du peuple congolais. L'exploitation minière est une entreprise au service des puissances étrangères. Je crois qu'à 50 ans d'indépendance, le pouvoir devrait conscientiser le peuple à libérer ses énergies vers l'agriculture et l'élevage qui sont les deux activités qui requièrent des efforts normaux et compétitifs. » Ça vous fait sourire.
Non, vous savez, c'est vrai que nous avons parlé de la malédiction des ressources naturelles. Je peux le dire parce que c'est vrai, en 50 années, les ressources nous ont apporté plus de problèmes que nous n'avons décollé en tant que pays développé. Mais le plus grand problème, c'est notre propre organisation, c'est notre vision par rapport aux ressources naturelles. Les ressources naturelles, ça vous permet de développer votre pays si vous avez une vision à long terme de votre développement. Je ne dis pas que exploiter les mines est incompatible à l'exploitation de l'agriculture des rêvages. Mais je me dis, ce qui nous a manqué, c'est cette masse critique nécessaire pour que les potentialités qui nous sont données par la nature deviennent des opportunités pour le développement. Ça nous a manqué depuis 50 ans parce que malheureusement, nous avons ouvert la voie à toutes les prédations. Nous avons fait de ces ressources naturelles les sources d'enrichissement des autres puissances. C'est de notre faute et on ne peut pas empêcher le peuple de croire un jour que ces ressources puissent nous aider. Demain, si nous respectons nos propres lois, si nous mettons en place un bon cadre, et si nous respectons les investisseurs qui viennent, et nous respectons nos propres textes, ces ressources ne seront pas un malheur pour notre pays.
Le professeur Ntamboué Yahassani de Montréal au Canada, étant donné que le ministère des Mines a choisi la province du Sud-Kivu comme province pilote, qu'est-ce qui va être mis en place pour assurer la réussite et la continuité de ce projet? Patrick Nkoussi de Goma en Nord-Kivu, tant que les services intervenants comme la division des mines seront sans moyens, ce sera difficile de mener à bien cette initiative. Brièvement, et ce sera aussi votre conclusion parce que l'émission va toucher à sa fin.
Je commencerai par le deuxième intervenant. Il parle de, on va dire, du renforcement des capacités, n'est-ce pas, de l'administration. Je crois que John Cunningham l'a dit, Willy aussi l'a effleuré. C'est vrai, on n'a pas eu beaucoup de temps pour lire exactement tout ce qu'il y a comme résolution dans ce programme. Mais le renforcement des capacités fait partie des choses qui ont été prévues, et notamment, n'est-ce pas, le déploiement de l'administration. Donc, c'est une question qui est résolue non seulement par ce programme, mais c'est résolu aussi par Promis. Je voudrais en profiter pour...
Alors, en un mot, professeur, ce sera votre conclusion.
Oui.
En un mot, je vous en prie.
En un mot, j'aimerais dire que l'initiative reste bien à la partie congolaise, et cette initiative, globalement, on pourrait l'appeler comme une initiative multisectorielle, n'est-ce pas, de restauration et de rationalisation de la chaîne minière depuis la chaîne de valeur de valorisation des substances minérales depuis de l'accès aux ressources jusque sur le marché international. C'est l'effort que nous sommes en train de faire, mais afin de réduire la pauvreté et afin d'aller vers un développement véritablement durable. John Cagnoni, un mot en guise de conclusion.
On voudra des mines au service de la paix, au service du développement, et je pense que je voudrais juste préciser à propos de Willy Kalenga qu'il ne faut pas qu'il fasse les relais des ONG qui ne sont pas informés des avancées notables sur le terrain.
Merci.
Et nous espérons effectivement que la partie orientale pourra aller de l'avant avec l'ambition d'en faire.
Merci, John Cagnoni.
Willy Kalenga, un mot en guise. Pour faire un état de droit, un état de droit dans lequel tout opérateur économique n'est pas respecté les textes, mais l'État lui-même le premier dans les ressources.
Cette émission est terminée. Merci à vous, nos invités, d'avoir répondu et d'y avoir participé. Vous pouvez la retrouver sur radiocapi.net ou la réécouter en FM à 4h15, heure de Kinshasa. Au revoir. Okapi, okapi.